Bonsoir. Je voudrais que pour commencer, nous puissions faire deux courtes lectures. La première sera dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4 et au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Retenez bien cette expression, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et maintenant, nous allons dans 1 Jean chapitre 2. Si Jésus a été oint, il est dit quelque chose concernant les chrétiens. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la parole de Dieu. On ne peut être que d'accord. On a lu deux passages. Le premier passage nous parle de Jésus qui a osé lire un texte de l'Ancien Testament en disant, par la suite, aujourd'hui, ce que je viens de lire, ça s'est accompli. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je suis loin, et ça voulait dire littéralement, je suis le Messie. Parce que vous savez, quand des fois on emploie des mots, on ne sait pas ce que ça signifie. Le Messie ou le Christ, c'est la même chose, l'un en hébreu, l'autre en grec, signifie simplement celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Jésus a dit qu'il était celui qui avait reçu l'onction de Dieu pour faire tout ce qu'on a lu, guérir les cœurs brisés, guérir toutes sortes de personnes qui sont dans le besoin, délivrer des captifs, etc. Mais il est dit dans les Épîtres, quelle grâce, il est dit nous concernant que nous devons être aussi l'onction, nous devons aussi posséder l'onction du Seigneur. Est-ce que vous savez que le mot chrétien vient du mot Christ, qui signifie, c'était une moquerie qui signifiait petit Christ, mais ça signifie donc petit ou un. Celui qui a reçu aussi l'onction, mais en moins de quantité. Vous comprenez la subtilité de la chose? Et nous sommes donc appelés tous, même si c'était une moquerie, et c'est quelque chose qui est resté jusqu'à présent, nous sommes donc appelés tous à être des personnes qui ont l'onction sur notre vie. Mais quelle onction devons-nous avoir? C'est la question qu'on peut se poser. Et vous savez que la Bible nous parle de trois types d'onction bien précises pour trois personnes différentes. Il y avait l'onction pour le prophète, il y a l'exemple d'Élisée qui a été oint, il y a l'exemple du souverain sacrificateur avec Aaron qui a été oint par Moïse, etc. Il y a l'exemple du roi comme David qui a été oint, même à plusieurs reprises. Et chaque aspect, chaque fonction demandée par le Seigneur nécessitait qu'il y ait une onction qui soit faite, tout simplement. Et nous sommes appelés à nous instruire de ces choses, à regarder d'abord cette première chose, que Jésus est celui qui a l'onction. De manière incroyable, puisqu'il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus a l'onction et Jésus a cette particularité d'avoir les trois caractères, les trois fonctions. Il est à la fois le prophète, il est à la fois le sacrificateur, il est à la fois le roi. Vous êtes d'accord avec cela? Et dans ces trois aspects, nous allons découvrir quelques-unes d'entre elles plus en profondeur, mais nous devons aussi, face à cette onction que le Seigneur a, nous devons aussi laisser l'onction du Seigneur agir en nous, faire son œuvre en nous. Je voudrais qu'on puisse vraiment venir sur le texte qui nous intéresse, qui se situe dans Tite, au chapitre 2, Tite, c'est juste avant Philémon, avant Hébreu, et juste après Timothée. Tite, chapitre 2, qui nous parle justement de ces trois aspects de l'onction du Seigneur, trois aspects de la vie du Seigneur Jésus. Tite chapitre 2, le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. » Est-ce que vous avez remarqué que dans ce passage, il y a les trois aspects, les trois moments qui décrivent les particularités de la fonction de Jésus, Jésus qui est d'abord venu comme un prophète. On voit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, justement, et c'est Jésus qui a été envoyé. Et la vie de Jésus est un message. Jésus a été d'abord envoyé comme un prophète. On va voir les textes qui de l'Ancien Testament qui en parlent. Mais Jésus, toute sa vie, a été quelque chose de fabuleux, de miraculeux. Et il a parlé, il a dit des paroles prophétiques de la part du Seigneur. Sa vie a manifesté quelque chose de la part du Seigneur en tant que prophète. Mais c'était pas tout. Jésus, il est aussi venu, comme on l'a lu, pour nous purifier. Et ce travail a pu se faire une fois qu'il est passé à la croix, une fois qu'il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité, il a pu venir devant le Seigneur en tant que souverain sacrificateur. Celui qui a un sacerdoce éternel pour pouvoir non seulement purifier tous ceux qui y croient en lui, les purifier par son sang, il a présenté son sang devant le Seigneur, et tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, ils sont purifiés, non seulement cela, mais il continue à intercéder, de faire des prières en faveur de tous ceux qui croient. Et combien nous sommes heureux de ces choses. Et dans ce domaine-là, si le Seigneur nous purifie, nous pouvons maintenant, comme ça a été lu, vivre dans le siècle présent. Ça nous parle de l'époque dans laquelle on est. C'était pas une question de siècle, une centaine d'années à l'époque. C'est une période. Nous pouvons vivre dans l'ère présente, comme il est dit, selon la sagesse, la justice et la piété. Et ça, c'est possible que parce que Jésus est le sacrificateur. Mais il est dit aussi que nous attendons la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a chanté, c'est le roi des rois, et il va revenir un jour en gloire, en majesté, en autorité, il va venir dominer, et c'est ce que nous attendons. Et cette attente doit produire quelque chose dans notre vie. Mais il a commencé son ministère comme un prophète. Et si nous lisons Le Deutéronome, vous savez que le Deutéronome, c'est un livre qui concerne la loi de Moïse, qui fait partie de la loi de Moïse. On voit que dans la loi de Moïse même, il y a une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus, qui concerne en particulier une fonction qu'il a exercée, cette fonction de prophète. Deutéronome 18, verset 15, nous dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous l'écouterez. Je relis. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et qu'est-ce que vous ferez par rapport à cela? Vous l'écouterez. Le prophète doit être écouté. Et vous savez que cette prophétie, elle n'est pas toute récente, puisqu'elle a 3500 ans à peu près. C'est-à-dire que 1500 ans avant que Jésus vienne, Moïse a écrit cette chose pour annoncer que le Seigneur Jésus viendrait entre autres comme un prophète. Et quand on regarde l'histoire, les évangiles, on regarde différents aspects du ministère du Seigneur Jésus. Il y en a un qui est particulier où il revient dans sa région, là où il a grandi, dans Matthieu chapitre 13. On voit qu'il revient chez les siens et qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont étonnés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. Et ils disent quelque chose de particulier concernant Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 53, « Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» etc. Ils disent, est-ce qu'il n'est pas du milieu de nous, le fils du charpentier, ses sœurs, elles ne sont pas au milieu de nous? Et Jésus Il parle de lui-même en disant « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il en a fait quand même, parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. Mais il n'a pas fait autant qu'il aurait voulu en faire, parce qu'il y a eu l'incrédulité. Mais il y a eu quand même peut-être des personnes qui ont cru et qui ont dit cette chose. Celui-ci, il y en a d'autres qui l'ont dit de façon plus flagrante, mais celui-ci est un prophète. Parce que d'où lui viennent cette sagesse et comment fait-il tous ces miracles? Et c'est peut-être la caractéristique du prophète que d'avoir une sagesse et de faire des miracles. Et on a bien compris que le conseil que Moïse donnait par rapport au prophète, c'était d'écouter ses enseignements. Écoutez-le. Quand il viendra, celui-là, écoutez-le. Et il y a un autre passage dans Jean chapitre 6, où là, c'est comme je le disais, les gens reconnaissent de manière incroyable que Jésus est un prophète. Mais ils se trompent. Ils se trompent dans la façon de réagir à cette chose. Jean chapitre 6, verset 14, ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, c'est-à-dire la multiplication des pains. Ces gens avaient vu ce miracle et ils disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ils ont compris que c'était la prophétie qui se réalisait. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils ont compris que Jésus était un prophète, mais quelle a été leur réaction? Il n'est pas dit dans la prophétie de Moïse, vous avez lu comme moi, il n'est pas dit « Quand il viendra ce prophète, faites-le roi !» Il est dit « Quand il viendra, écoutez-le !» Et Jésus, il ne leur a pas dit « Faites-moi roi !» Jésus leur a dit, il leur a annoncé à tous ceux qui étaient présents, à ses disciples en particulier, « Il faut que j'aille jusqu'à la croix, il faut que j'aille mourir, on va me mettre à mort, etc. » Mais ces personnes, « Oui, c'est vraiment le prophète, mais on veut le faire roi !» Nous, on veut le miraculeux, nous, on veut la bénédiction du Seigneur, nous, on veut toutes ces choses, mais on ne veut pas passer par la croix. Et est-ce qu'il n'y a pas, des fois, dans notre vie, dans nos pensées, des moments où on veut l'onction du Seigneur, mais on veut cette onction qui bénit, cette onction qui répond à notre prière, cette onction qui est toujours là, qui nous réconforte, etc. Mais on ne veut pas porter notre croix, comme le Seigneur nous y invite. Et vous voyez que certaines fois, on peut se tromper. On peut se tromper de réaction tout en ayant une bonne connaissance de ce que Dieu est. Mais on se trompe de réaction parce qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. Le Seigneur demande simplement, puisqu'il est un prophète, d'écouter son enseignement. Que déjà son onction puisse nous enseigner quelque chose. Que son onction puisse nous apporter quelque chose de spirituel au fond de nous-mêmes. Nous ne voulons pas dépendre de notre intelligence. Nous ne voulons pas dépendre de notre chair pour marcher ici-bas. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Est-ce que c'est votre désir ce soir, de marcher selon l'Esprit? Je crois que c'est le désir de chaque enfant de Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à simplement venir dans sa présence et à simplement l'écouter de tout notre cœur. Et ça signifie déjà cela. Nous devons avoir l'oreille attentive à sa voix. Nous devons prendre des moments de qualité pour essayer de discerner la voix du Seigneur dans notre cœur. Combien c'est important cela? Combien c'est déjà une base, je dirais. Ça devrait être la priorité, mais ça devrait être déjà quelque chose acquis depuis des années et des années. Et combien, moi le premier, je me dis que j'ai encore des efforts à faire dans ce domaine. Mais combien je sais que c'est une bénédiction de savoir discerner la voix du Seigneur en nous. Combien de fois on peut prendre nos pensées, nos raisonnements à nous pour la volonté de Dieu, et se tromper et se planter totalement, alors que si on avait été attentif à ce que le Seigneur voulait nous dire, ben, tout se serait passé comme il faut. En revenant à Tite, il est dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne. » Voyez qu'il y a vraiment cet aspect d'enseignement, nous devons nous laisser enseigner. Et la première chose que l'onction fait dans une vie, c'est qu'elle enseigne quelque chose. Nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Nous devons aussi, non seulement être des gens qui écoutent le Seigneur, mais aussi des gens qui sont comme des prophètes. Alors je ne parle pas du ministère prophétique qui a été donné à l'Église, mais je reviens au sens du mot prophète en lui-même qui signifie simplement messager de Dieu. Dieu nous appelle à être tous des messagers, tous des personnes qui procurent aux autres des paroles spirituelles. Tous des personnes qui procurent, qui édifient l'Église par les charismes également. Tous des personnes qui sont remplies de la sagesse du Seigneur pour pouvoir donner des conseils, exhorter, etc. Être une bénédiction à l'Église, être une bénédiction à ce monde, simplement en étant des messagers du Seigneur. Est-ce que c'est pas ce que le Seigneur voudrait nous faire, que nous vivions? Est-ce que déjà, ça serait pas une bonne chose que chacun d'entre nous puissions aspirer au charisme spirituel? Il y a vraiment deux prières qu'on peut faire sans batailler, à savoir si c'est la volonté du Seigneur. Demander la sagesse, parce que c'est écrit noir sur blanc, et aspirer au charisme spirituel, c'est écrit noir sur blanc. Ces choses-là, on peut prier sans douter que c'est le Seigneur qui les désire déjà. Mais il ne tient qu'à nous à les prier, à en faire des sujets de prière, à les rechercher vraiment. Quand il est dit aspirer au charisme spirituel, c'est soyez zélés pour ces choses. Ayez du zèle pour cela. Est-ce que nous sommes dans cet état de cœur? Je pensais à ce témoignage d'un homme qui était qui est en train d'aller chercher une bouteille d'alcool, il fait ses courses, il achète de l'alcool parce qu'il était un peu alcoolique sur les bords, et il s'arrête à un moment donné parce qu'il voit une foule qui est là devant un bâtiment, et alors il s'approche, il se rend compte que c'est un lieu où il y a l'évangile qui est prêché, puis il est intrigué quand même de se dire pourquoi il y a tant de gens qui sont là, alors il se faufile au milieu de la foule, il arrive dans le hall d'entrée là, et le pasteur est en train de prêcher, et au moment où il rentre cet homme, sans que le pasteur le sache, il lui dit une parole. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ce lieu, qui a une bouteille, telle bouteille dans sa poche, une bouteille de whisky dans sa poche, et qui est venu pour de mauvais motifs dans cette réunion. Et le gars, il est interpellé, et il assiste à la réunion, et il est touché par le message. Parce que le pasteur a simplement eu l'onction, a eu simplement manifesté, par la grâce de Dieu, un charisme spirituel. Est-ce que c'était une bonne chose ? Hein ? On est d'accord ? Est-ce que ça serait pas bien que chacun d'entre nous, parce que souvent on dit c'est les pasteurs qui doivent avoir l'onction. Bien sûr que c'est vrai. Surtout les pasteurs doivent avoir l'onction. Mais est-ce que c'est pas l'appel de tous les chrétiens ? Moi j'ai pas lu, dans 1 Jean, j'ai pas vu qu'il était question que des pasteurs. Je sais pas si vous avez lu comme moi. J'ai compris que c'était toutes les personnes. Et même quand on regarde le contexte, on se rend compte que c'est les nouveau-nés dans la foi à qui les dit rappeler ces choses. L'onction que vous avez déjà reçue, elle est sur vous. Mais par contre, aspirez au charisme, aspirez à avoir une onction, aspirez à avoir des paroles qui vont changer la vie des gens simplement parce qu'elles sont inspirées du Seigneur, pas des paroles qui viennent de notre propre fond. Est-ce que c'est pas intéressant quand on va manger avec un frère ou une sœur d'avoir une parole de réconfort, une parole de joie, une parole de paix qui va faire quelque chose dans son cœur ? Par la grâce du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas des choses intéressantes? Que dans nos discussions, il y ait déjà l'onction du Seigneur, ben simplement parce que nous aurons tendu l'oreille et que le Seigneur nous aura instruits. Mais Jésus n'a pas fait qu'être un prophète. Il est allé jusqu'à la croix. Et s'il y a vraiment quelque chose qui délimite un peu le ministère de Jésus, c'est la croix. À la croix, le prophète Jésus a été mis à mort. Mais comme il était aussi le Fils de Dieu, ça a été le sacrifice parfait. Celui qui n'a jamais péché. Ce n'était pas comme les autres prophètes de l'histoire qui n'étaient que des hommes. Là, c'était le Fils de Dieu. Et au moment de la croix, il y a le ministère du souverain sacrificateur qui prend le dessus. Jésus a toujours les 3 ministères, mais il y a ce ministère-là qui prend le dessus à ce moment-là. Parce que comme le sang a été répandu, il fallait que le souverain sacrificateur, à l'image de ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, de manière spirituelle, se fasse réellement. Et la croix délimite ce moment-là. Jésus est ressuscité, il a présenté son sang devant le Seigneur et il a endossé ce nouveau rôle. Le psaume 110, verset 4, nous dit ces choses, je le lis pour vous, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. C'était une prophétie concernant cet aspect du ministère de Jésus. Un sacrificateur pour toujours. Jésus a reçu cette onction pour être le souverain sacrificateur. Et si on lit Hébreux, je vous passe les détails parce que je ne voudrais pas être long sur ces choses, mais je vous fais un petit rappel de tout ce qu'il est dit concernant le souverain sacrificateur spirituel. Il a été tenté comme nous en toutes choses, donc il peut nous secourir dans nos faiblesses et il peut nous comprendre parfaitement en toutes choses. Dans Hébreux au chapitre 4, on voit cela. Il a un sacerdoce perpétuel. Il ne peut pas être remplacé. Vous savez que quand le sacrificateur mourait, on était obligé de oindre un autre sacrificateur pour que ce soit lui qui prenne la place. Là, Jésus, il est vivant pour toujours. Il n'y a pas personne qui peut prendre sa place. Et le salut qu'il offre, la purification qu'il offre, elle est parfaite. Il sauve parfaitement, comme nous le dit Hébreux chapitre 7. Et il fait en sorte quelque chose de particulier, c'est qu'il fait en sorte que Dieu ne se souvienne pas de nos péchés. Est-ce que vous êtes content que Jésus ait ce poste-là, ce ministère-là, que Dieu, par les prières de Jésus, par son intercession, il ne se souvient pas de ses péchés parce qu'il a présenté le sang innocent et pur. Dieu a jeté notre péché au fond des mers. Et la conséquence, on la voit dans Tite. Il nous a rachetés de toute iniquité, au verset 14, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et puisque nous avons un tel sacrificateur, nous devons, nous approcher de lui avec assurance. Nous devons aussi ne passer que par lui, ne pas essayer de remplacer le rôle de Jésus. Il n'y a que Jésus. Et il y a cette histoire peut-être que vous connaissez déjà, où c'était question d'un homme, très riche, qui avait un fils. Un homme très riche qui avait un fils, et ce fils-là, un seul fils, alors c'était le centre de l'attention, c'était la prunelle des yeux du papa. Et il en prenait soin, etc. Et puis dans l'adolescence de ce jeune homme, il y a la maman qui est venue à mourir. Quelque chose de difficile. Alors d'autant plus, comme il lui restait que cet enfant, cet homme, il s'est vraiment attaché à son fils. Il a essayé d'être un bon père, il a essayé en même temps de prendre le rôle de maman au passage, mais il a essayé vraiment de lui apporter tout ce qu'il fallait. Et malgré sa tristesse, il a toujours essayé d'être là pour son fils. Et puis, malheureusement, il a été touché par la maladie, ce fils, et il est mort aussi. Et là, cet homme, il était anéanti. Mais entre-temps, et ses affaires, alors qu'il était riche, ses affaires ont prospéré. Il avait une richesse incroyable. Et entre autres, il avait une collection d'œuvres d'art incroyables. Et à cause de la tristesse, on ne sait pas si c'est vraiment suite à la mort de son fils, mais en tout cas, au bout d'un moment, cet homme, il a été mort. Il a été touché par la maladie et il est mort. Et il a laissé son testament. Et le maître de loi qui était là, l'avocat, était là, et quand il a lu le testament, il a dit, il faut qu'on organise une vente aux enchères. Avec toutes les œuvres d'art qui seront là. Et donc, ils font la publicité pour cela, une enchère incroyable, des œuvres de qualité, des maîtres connus dans toute la profession. Donc, il y a des conservateurs de musées qui viennent, il y a toutes sortes de personnes, des hommes riches qui veulent ajouter à leur collection certains tableaux. Et alors que la vente aux enchères commence, le tout premier tableau, c'est un tableau d'un peintre qui n'est pas connu. Et en fait, il représente simplement le fils du monsieur qui est très riche. Et alors, c'est fait de manière très très simple. Et quand on demande qui voudrait enchérir pour acheter cette œuvre, c'est le silence glacial dans l'assemblée. Puis il y a une petite main toute fragile qui se lève. Et en fait, il s'agit d'une servante qui a connu le fils, qui était au contact qui a choisi d'enchérir parce qu'elle connaissait. Et ça a une valeur sentimentale pour elle. Ça lui rappelle toutes sortes de souvenirs. Et alors qu'elle enchérit, il y a celui qui est aux enchères, là, et puis le notaire qui se regarde. Ils disent, c'est bon, adjugé à la vieille dame. Et puis à ce moment-là, ils disent, maintenant, nous devons vous lire la suite des enchères, la suite du testament. Et la suite du testament, c'était simplement cette phrase. Quiconque achète la peinture de mon fils reçoit toute la collection. Et la vente aux enchères est finie. Et là, toute la salle a commencé à se regarder. Et puis à regarder la dame. Et quelle image ça nous donne? Parce que souvent, on essaye d'avoir les bénédictions du Seigneur en passant par un autre chemin que Jésus. Par un autre chemin aussi que le renoncement qui nous amène, qui nous demande d'avoir. Quelle image de se rendre compte que cette dame, simplement parce qu'elle aimait le Fils, elle a eu tout l'héritage du Père. Quelle image pour les chrétiens. Et quelle,
Quel dévouement ça doit nous donner, quel empressement ça doit nous donner de passer du temps dans la présence de Dieu, de profiter de ce que Jésus a donné sa vie. Jésus a payé le prix, Jésus a payé le prix cher pour que nous puissions accéder à tout cet héritage. Combien nous devons, nous aussi, non seulement apprécier Jésus, mais avoir une véritable communion avec lui. Parce que c'est seulement par lui que nous pouvons accéder au Père. Seulement par lui que nous pouvons véritablement vivre la vie que le Seigneur veut que nous vivions. Qu'est-ce que ça implique pour nous d'avoir Jésus comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur dans le ciel? Ben, ça implique déjà une chose, c'est qu'il nous a purifiés, et maintenant il fait de nous des sacrificateurs. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, on voit qu'il a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes aussi appelés chacun d'entre nous, à être des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes appelés tous, donc, à offrir des sacrifices spirituels. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4. Je ne veux pas vous charger en lisant tous ces passages. Si vous voulez les noter, faites-le. Mais nous sommes appelés à présenter au Seigneur des sacrifices spirituels. Est-ce que nous avons conscience de ces choses? Est-ce que nous rendons compte de ces choses? Peut-être, pour nous, c'est quelque chose d'abstrait. Alors, on va être bien pratique. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 13 et le verset 15. Un des premiers sacrifices que nous devons présenter au Seigneur. Il est dit, par lui, donc par Jésus, encore une fois, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu, première chose, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Est-ce que vous savez que quand vous louez le Seigneur, vous êtes en train d'offrir un sacrifice spirituel au Seigneur, un sacrifice de louange, parce que vous êtes en train de confesser son nom? Peut-être que vous ne le saviez pas. Et en tout cas, c'est ce qui se passe vraiment. Mais ce n'est pas fini, parce que souvent on s'arrête à ce passage, on s'arrête à ces versets. Regardez pourtant ce qu'il est dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Un deuxième sacrifice, oui, on peut les regrouper ensemble. La bienfaisance et la libéralité, la générosité, le fait d'être quelqu'un qui prend soin aussi des personnes qui sont autour de nous, qui sont dans la difficulté financière peut-être, physique, matérielle, je ne sais pas. Est-ce que nous s'offrons aussi des sacrifices de ce genre? Non pas pour être vus des hommes, mais simplement pour obéir au Seigneur. Parce que la particularité de cette onction que le Seigneur a reçue, c'est que non seulement il a eu il est maintenant souverain sacrificateur, donc il nous purifie, mais maintenant il nous permet que toutes nos actions soient pures devant Dieu, soient agréables devant Dieu, simplement parce que nous avons accepté son sacrifice. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Tout ce que nous pouvions faire avant de le connaître, c'était réduit à néant devant lui, ça ne pesait rien dans sa balance. Tout ce que nous faisons maintenant que nous sommes au Seigneur, si c'est inspiré par lui, eh bien, c'est agréable à Dieu. C'est un sacrifice de louange. Même quand on donne une pièce à un clochard dans la rue, c'est un sacrifice de louange. Si on le fait de tout notre cœur. Il faut toujours revenir à ça. Mais regardez encore la suite, parce que ce n'est pas fini. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. L'obéissance, c'est aussi un sacrifice qu'on peut offrir au Seigneur, un sacrifice spirituel. Et vous avez compris que les sacrifices spirituels, finalement, c'est l'état de cœur, les attitudes de cœur, les bonnes dispositions de cœur que nous pouvons offrir au Seigneur. Ce n'est pas des choses qui se voient forcément, ça peut se voir par la suite dans les actes, mais c'est surtout quelque chose d'intérieur. C'est ça les sacrifices que le Seigneur voudrait qu'on ait, un sacrifice d'obéissance. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que le Seigneur apprécie? Alors, il y a des versets, on se souvient de ce qu'a dit Samuel à Saül, que Dieu préfère l'obéissance à tous les sacrifices. Parce que justement, l'obéissance, c'est un sacrifice spirituel qui est agréé par le Seigneur, que le Seigneur va bénir. Et est-ce qu'une personne qui obéit au Seigneur ne va pas être dans sa bénédiction? Quand on lit la parole, on le voit partout. Partout, que tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui ont été sincères avec le Seigneur, tous ceux qui ont eu de la déférence, qui sont soumis à leurs conducteurs, même quand les conducteurs, ils n'étaient pas inspirés. Quand on imagine comment David s'est soumis à Saül pendant des années, et quand on voit la suite, qu'il a été béni, on se rend bien compte que la soumission aussi, c'est un sacrifice spirituel. Toutes ces choses, nous sommes appelés à les apporter au Seigneur. Et je voudrais finir avec le verset 18. Priez pour nous, Simplement cela. Est-ce que nous avons compris que la prière, c'est un sacrifice aussi que nous pouvons faire monter au Seigneur? Le fait de prier les uns pour les autres, ce sont des sacrifices spirituels. Ce sont des choses que nous, en tant que sacrificateurs de l'Éternel, un sacrificateur pour Dieu le Père, nous sommes appelés à faire. Simplement parce que nous avons reçu l'onction du Seigneur. Et c'est par cette onction qui nous enseigne, qui nous instruit, que nous pouvons savoir dans quelle direction prier, comment obéir de la meilleure des manières, comment nous soumettre, etc. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre tout cela selon la volonté de Dieu. De manière générale, Romains 12 nous dit « Offrez vos corps tout entiers, vos vies entières, comme des sacrifices vivants. » Ça résume tout ce que nous devons faire. Le but, en tout cas, c'est que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, comme nous le dit le verset 20 d'Hébreux 13, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Ça, c'est le sacrificateur. Jésus est un sacrificateur qui a reçu cette onction particulière, mais il désire nous donner son onction pour que nous puissions avoir nous puissions faire ses bonnes œuvres, nous puissions accomplir sa volonté, simplement parce qu'il aura mis son onction sur nos mains, sur tout ce que nous pouvons être amenés à faire. Et la dernière chose, la dernière partie du ministère du Seigneur Jésus, qui n'est pas encore pleinement manifestée, c'est que Jésus est le roi, Jésus est surtout le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et si on revient à Tite, nous l'avons lu, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Et qu'est-ce qu'il fait? C'est au verset 13. Et au verset 14, il est dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter et de se faire un peuple. Jésus est venu non seulement comme un prophète pour nous enseigner, Jésus est venu non seulement comme un sacrificateur pour nous purifier et que tout ce que nous pourrons faire soit agréable au Seigneur, mais il est venu aussi pour un roi, pour diriger qui? Son peuple. Pour nous diriger dans sa volonté. Et bien sûr, quand nous regardons autour de nous, nous ne voyons pas Jésus en tant que roi. Parce qu'on sait qu'un jour, le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Je vous donne ce passage, Apocalypse 11, verset 15. Il est question de la septième trompette qui sonne. Et qu'est-ce qui se passe? Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Quand il y a eu la septième trompette, quand il y aura la septième trompette, le royaume du monde sera remis à Jésus. Il sera le roi véritablement sur la terre. Pour l'instant, il est le roi dans le ciel. Et il a déjà cette autorité d'être le roi sur la terre, mais ce n'est pas concrétisé. Je vais y arriver. Concrétisé. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et déjà, la première chose que cela doit nous amener à vivre, c'est que nous devons nous soumettre à lui. Nous devons simplement fléchir le genou devant lui. Nous devons soumettre notre vie à son autorité, parce que nous sommes des personnes qui marchent, encore une fois, selon l'Esprit. Nous ne sommes pas des personnes qui attendent de voir un roi avec une couronne pour lui obéir. Nous sommes des personnes qui marchent selon l'Esprit. Donc spirituellement, nous voyons le Seigneur Jésus qui est déjà couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons déjà tel qu'il est vraiment. Quand on voit comment quelle vision Jean il a eu dans l'Apocalypse, justement, quelle vision il a eu de Jésus, il n'a pas vu Jésus comme un bébé dans la crèche dont parlait Jérémie tout à l'heure, il a vu Jésus comme le roi glorieux, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Est-ce que c'est parce qu'on a chanté? Et c'est cette vision-là que nous devons avoir de Jésus aussi. Jésus est le roi, et bien sûr, un jour, il va venir et tous les yeux de la terre le verront. Tous ceux qui l'ont percé se lamenteront, il est dit même. Les Juifs même vont revenir au Seigneur, ils vont se repentir en voyant ce Seigneur-là. Mais nous qui sommes déjà au Seigneur, nous qui avons déjà reçu son onction, nous sommes appelés à nous soumettre à son autorité. Est-ce que nous sommes des enfants justement, des sujets bien obéissants, des bons citoyens du royaume de Dieu? Ou est-ce que nous sommes peut-être des fois des personnes qui, comme on le voit aux informations, qui ont tendance à faire la grève, ou à se rebeller, ou à faire toutes sortes de choses pour exprimer leur désapprobation? Quels citoyens sommes-nous? Citoyens du ciel? Ça, c'est la question que le Seigneur nous pose. Mais la deuxième chose que ça doit impliquer, le fait de savoir que Jésus est le roi des rois, c'est que je suis moi-même appelé à régner. À régner dans la vie. Comme le dit ce verset, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Par Jésus-Christ, seul. Encore une fois. Seulement par Jésus-Christ. Mais je suis aussi appelé à une troisième chose, à être son ambassadeur. Si Jésus est le roi, et que je suis de son royaume, mais que je ne suis pas dans son royaume, de manière physique, je suis appelé à être son ambassadeur, simplement. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas moi qui suis trop compliqué dans mon raisonnement. Ouais, vous hésitez, donc. Si Jésus est le roi, et que je fais partie de son royaume, je suis son ambassadeur. Ma vie tout entière doit être un message pour dire aux autres, oui, il y a un roi, des rois qui va venir un jour, qui va venir prendre ses enfants, je vous exhorte à rentrer dans son royaume, je vous exhorte à prendre le bon visa pour rentrer dans son royaume, parce que un jour ça sera trop tard. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous sommes les représentants du Seigneur aux yeux de ce monde. Et justement, quand nous régnons dans la vie par Jésus-Christ seul, notre vie devient une lumière qui exhorte les autres à rentrer dans ce royaume. Une lumière qui exhorte les autres à recevoir cette lumière en eux-mêmes pour qu'ils deviennent les enfants du Seigneur. Nos pieds doivent être oints. Notre oreille doit être ointe pour recevoir l'instruction. Nos mains doivent être ointes pour que nos œuvres soient purifiées et agréables au Seigneur. Mais nos pieds aussi doivent être oints. Nous devons avoir l'onction. Dans tous les endroits où nous allons, est-ce que nous avons l'onction du Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous conduit? Est-ce que nous profitons des occasions favorables ou non pour partager la parole? Est-ce que nous avons l'onction sur nos pieds? Mais je prends cette image volontairement parce que je voudrais finir simplement avec cette coutume qui est décrite dans le Lévitique 14 qui concerne la purification du lépreux. Le lépreux qui avait été guéri, il n'était pas admis tout de suite dans le peuple. Il y avait tout un processus qui était là. Je vous résume très vite la chose. Il y avait un animal qui était sacrifié et on prenait du sang de cet animal qu'on mettait sur l'oreille, le lobe de l'oreille droite, ce qu'on mettait sur le pouce droit et qu'on mettait sur l'orteil droit du pied. Du sang qui était mis sur ces choses. Et combien ça, l'image est simple. Ça nous parle de faire mourir notre intelligence spirituelle, notre intelligence charnelle plutôt. Ça nous parle de faire mourir les œuvres charnelles. Ça nous parle de faire mourir aussi le zèle charnel. Des fois, on a plein de zèle, mais ce n'est pas pour les bonnes choses. Et il y avait... Le lépreux qui voulait être admis dans le peuple, il devait amener un animal pour être sacrifié. Il y avait un sacrifice qui était là et le sang qui était mis sur son oreille, sa main et sur son pied. Mais c'était pas fini. Ce lépreux, c'était une des seules personnes qui recevait aussi l'onction, mais une onction particulière, c'est qu'elle recevait aussi l'onction au même endroit, sur l'oreille, sur la main, sur le pied. Et quand elle avait fait cette cérémonie, avec le souverain sacrificateur justement qui était là, eh bien, au bout d'un certain moment, elle pouvait être acceptée dans le peuple de Dieu comme s'il n'y avait jamais eu de maladie, comme si de rien n'était. Et cette image nous parle de l'onction que le Seigneur veut accomplir en nous. Il nous a déjà donné l'onction et il veut que ça soit cette onction qui travaille en nous. Il veut que chacun d'entre nous puissions être des personnes remplies de son onction, cette onction qui nous enseigne, cette onction qui nous apprend à discerner quelle est la volonté du Seigneur, cette onction qui nous apprend à faire les bons choix dans notre vie. Est-ce que vous êtes intéressé à faire des bons choix dans votre vie? Je crois que tout le monde en est au même point, hein. Est-ce que on va pas faire des bons choix si on est rempli de l'onction du Seigneur? Si on est attentif à sa voix? Si on a dit, Seigneur, tu vois, mon intelligence charnelle, je veux que tu t'en occupes. Je veux la mettre sur la croix. Mais je veux prendre l'intelligence spirituelle que tu vas me donner par ton onction. Seigneur, tu vois mes mains qui sont souillées par le péché. Que je veux les placer à la croix. Que ton sang purifie tout cela. Et que maintenant ton onction soit sur mes mains. Que quand j'agis, quand je fais quelque chose, quand je décide de te servir, ce soit véritablement quelque chose de spirituel. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour la gloire des hommes, mais parce que je veux te servir. Parce que je veux faire les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, tu vois tous les endroits où j'ai pu aller pour de mauvais motifs, pour ma gloire personnelle, pour mon égoïsme. Seigneur, je veux clouer ça à la croix. Je veux que ton sang efface toutes ces choses et je veux maintenant, Seigneur, que ton onction dirige tous mes pas, que ton zèle, le zèle de l'évangile de paix puisse diriger mes pas afin que je puisse être une bénédiction dans tous les endroits où tu m'emmènes. Est-ce que ce n'est pas une bonne prière à faire au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur? Parce que nous sommes tous, spirituellement parlant, des lépreux que le Seigneur a guéris si nous avons choisi de croire en Jésus-Christ, si nous avons laissé son sang purifier notre cœur. Nous sommes des lépreux qui ont été guéris. Mais maintenant, nous devons véritablement être des citoyens du royaume céleste, c'est-à-dire laisser l'onction du Seigneur agir en nous, nous enseigner toutes choses, laisser l'onction du Seigneur conduire nos pas, conduire notre vie, afin que nous soyons véritablement des bénédictions dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos travaux, dans nos études, quel que soit l'endroit où Dieu nous place, être une bénédiction, parce que l'onction du Seigneur sera sur nos vies. Je voudrais finir en relisant ce verset, le verset 14 de Tite 2. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Au travers du ministère prophétique de Jésus-Christ, nous avons eu l'instruction, nous avons eu la connaissance, nous avons même eu le moyen de salut. Jésus a donné sa vie. Au travers du ministère sacerdotal de Jésus, nous avons pu être purifiés de nos péchés. Et tout ça, le Jésus le prophète et Jésus le souverain sacrificateur, ça ne sert qu'à une chose, c'est à préparer un peuple pour que le roi vienne régner dessus. À préparer un peuple pour le faire entrer dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses ne servent qu'à ça. Et oui, Jésus a été un prophète à un moment donné, de manière incroyable. Il est toujours ce prophète-là, mais il y a eu cet aspect dans sa vie, et ça s'est arrêté à la croix. Il y a eu, maintenant, nous sommes dans cette ère où Jésus est le sacrificateur. Il intercède pour nous, et il nous purifie de tout péché. Comme Jérémie le disait, on est encore dans ce monde et on est au contact malheureusement de toutes sortes de choses qui peuvent nous souiller. Et quelle grâce on a de savoir qu'on a un souverain sacrificateur qui prie pour nous, qui intercède pour nous et qui est toujours là pour présenter son sang qu'il a fait une fois pour toutes. Et à chaque fois qu'on vient devant le Seigneur, qu'on demande pardon, le Seigneur, il nous pardonne. C'est parce qu'il y a Jésus qui est là devant lui. Quelle grâce! Mais nous voulons vivre dans cette dimension que Jésus est aussi le roi des rois, que celui qui veut régner dans notre vie, celui qui veut nous diriger dans toutes les étapes de notre vie pour que nous puissions lui être agréables. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre un moment de prière simplement et que nous puissions laisser l'onction du Seigneur nous enseigner toutes choses, comme ça a été dit dans sa parole. Le Seigneur est là par son esprit. Et vous avez bien compris que l'onction du Seigneur, c'est l'esprit qui est sur nous. Jésus a pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et nous pouvons dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, ils peuvent demander simplement pardon pour leurs péchés. Et de façon miraculeuse, quand on demande pardon, quand on choisit de suivre le Seigneur de tout son cœur, eh bien le Seigneur fait une œuvre miraculeuse, une œuvre spirituelle, il fait de nous ses enfants. Et quand on a déjà accepté cela, il nous invite à être baptisés, plongés, remplis de son Saint-Esprit, remplis de son onction, pour vivre dans cette vie spirituelle qu'il nous appelle à vivre. Est-ce que nous voulons être de ces personnes qui sont zélées pour de bonnes œuvres, des personnes qui sont purifiées par lui, des personnes qui peuvent accomplir la volonté du Seigneur, simplement parce que Jésus a eu cette onction sur sa vie? Quelle grâce nous avons d'avoir un Sauveur qui n'est pas venu simplement mourir à la croix, mais qui est venu pour faire tout ce ministère. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité, et il continue d'intercéder, et il va revenir encore nous chercher. Il va revenir encore se manifester à toute cette planète. Il va encore revenir instaurer un règne de justice, un règne de paix. Et tous ceux qui auront choisi de le suivre dès à présent, ils seront avec lui pour régner. Quelle grâce nous avons de connaître ce Sauveur. Oui, Seigneur, dans ces moments, nous voulons te demander, Seigneur, que ton onction que nous avons déjà reçue puisse, Seigneur, nous instruire. Oui, Seigneur, que tu puisses, dans ces moments, déverser ton onction sur nos oreilles, que tu puisses déverser ton onction sur nos mains, que tu puisses déverser ton onction sur nos pieds, Seigneur, afin que nous puissions aller là où tu nous enverras, que nous puissions, Seigneur, faire les choses que tu as préparées pour nous, que nous puissions comprendre les choses que tu veux que nous comprenions. Seigneur, nous ne voulons pas aller à droite ou à gauche, nous ne voulons pas perdre du temps sur cette terre. Nous voulons faire ta volonté, tout simplement. Et nous croyons qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est d'être dans ta présence. Le secret, c'est d'être en communion avec toi. Le secret, c'est de recevoir ton Saint-Esprit. Le secret, c'est de te demander la sagesse. C'est de te demander aussi les charismes dans notre vie. Seigneur, permets que nous puissions grandir dans ces choses, que nous puissions avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Quand nous parlons avec les uns les autres, Seigneur, que nous puissions être tout simplement remplis de toi. Comme tu as manifesté ces choses dans ton ministère et tu le fais encore, Seigneur, nous voulons manifester ces choses. Merci parce que c'est seulement par ta grâce que nous pouvons le faire. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te remercier parce que même si nous ne le méritons pas, tu nous utilises, tu nous emploies, Seigneur, pour ce travail fabuleux de répandre l'évangile autour de nous. Seigneur, nous voulons le faire de tout notre cœur, nous voulons le faire de toute notre force. Alors Seigneur, merci parce que tu nous aides dans tout cela, tu nous as donné tout ce qu'il fallait pour le réussir et nous voulons te faire confiance et nous voulons faire tous nos efforts pour faire notre part à nous, Seigneur, que ton nom soit béni pour ton action vivifiante dans notre vie. Dans cette soirée, nous croyons que ton onction est répandue sur nous, Seigneur. Nous croyons que dans ces moments, alors que nous tournons nos cœurs vers toi, tu réponds ton onction, Seigneur. Tu vois là où il y a besoin que ton onction soit répandue particulièrement. Peut-être c'est sur nos oreilles particulièrement, notre intelligence. Peut-être c'est sur nos mains, Seigneur, pour te servir. Peut-être c'est sur nos pieds, Seigneur. En tout cas, que par ton esprit, tu puisses agir là où nous en avons besoin, par ta grâce éternelle. Amen.